Chers frères et sœurs et chers amis, l'étude d'aujourd'hui est intitulée « La souffrance de Jésus-Christ à la croix ». Chers amis, si nous pouvions réaliser ce qu'a pu représenter comme abaissement dans le mépris et, sans oublier l'abjection, le seul fait pour la personne du Verbe incarné d'être arrêté par les autorités morales et religieuses les plus hautes du peuple dont il était le fils et d'être traité par elles d'imposteur et même de menteurs. Par suite de notre accoutumance au récit évangélique, nous ne réalisons plus suffisamment ce qu'ont pu être la dérision de la scène du jugement, la robe blanche du fou, les quolibets, les soufflets des esclaves, les crachats, la parodie royale, la couronne d'épines. Je ne parle de ce qu'ajoute à ces scènes l'odieux de traiter ainsi un homme en l'état de souffrance où se trouvait le Christ flagellé, le mépris et les outrages de la foule des Israélites, la dénudation sur le gibet infâme, où ne mouraient en général que les assassins et les bandits, les railleries, les moqueries et les insultes pendant l'agonie. Tout cela est terrible. Or, tout cela est, à mon avis, de l'abjection au sens le plus fort du terme. Et si on met en regard de cette accumulation de mépris l'imminente dignité de la personne du Christ, il est vrai de parler d'un mystère d'abjection. Celui-ci devient plus redoutable encore si on songe que de pareils traitements furent délibérément et librement choisis par celui-même qui les subissait. Ils le furent d'autant plus consciemment et librement qu'ils n'étaient même pas exigés par le but de l'incarnation, et à supposer même que Jésus dut effacer la faute de l'humanité par un sacrifice sanglant, rien n'exigeait que ce suprême sacrifice ait lieu au milieu d'une telle accumulation d'abaissement et de souffrance. Nous ne pouvons qu'y voir un mystère d'amour. Et quelle doit donc être la conséquence pour nous, chrétiens, et pour les âmes éprises d'un grand amour pour Jésus-Christ? Sera-t-il désormais possible de laisser revivre en nous le mystère de Jésus-Christ sans qu'il aboutisse à établir en nous ce même mystère d'abjection? Si nous aimons vraiment, comment ne pas désirer de prouver notre amour à Christ de la manière même qu'il choisit pour nous prouver son amour pour nous, chers amis. Or, un amour qui n'irait pas jusque-là serait-il logique? Mais alors, que devons-nous conclure? Que nous devrions imiter de tels gestes? C'est là le point délicat, et il nous faut bien le comprendre. Un tel comportement, pour être vrai, doit réellement être l'expression proportionnée, spontanée, d'un amour de configuration pour Jésus-Christ crucifié, arrivé à un tel degré qu'il ne peut être en nous que le fruit de l'activité des dons du Saint-Esprit. Chers amis, nous arrivons maintenant là où Jésus est chargé de sa croix. Et nous pouvons, sans trop nous tromper, dire maintenant quelques mots avec Marie, Marie la mère de notre Sauveur bien-aimé. Voici les mots. Ô Christ Jésus, vous avez pris en charge avec ce bois l'humanité entière, avec tout son lot de péchés, de misère, de faiblesse et de mort. C'est par amour, amour pour nous, et par obéissance au dessein de votre Père, il y avait en effet entre vous, entre votre nature infiniment intègre et pure, il y avait la souffrance de la mort, une contradiction telle que leur simple acceptation fut une agonie épouvantable et mystérieuse. Pour nous, cela devrait aller de soi. Au nom de votre amour et de votre courage, nous vous supplions de nous donner la lumière pour découvrir et bien voir en face notre croix, celle que vous nous avez réservée et pas une autre. Oui, celle qui est adhérente à notre être même et inséparable du déroulement de nos journées. Apprenez-nous à l'envisager comme un instrument de rédemption et montrez-nous par quel bout la porter. Oui, voyez-vous, c'est ainsi que s'achève et s'accomplit la destinée douloureuse de Marie, la mère de notre bien-aimé Sauveur. La mère ne put jamais arriver à posséder complètement son fils parce que elle n'était que femme et qu'il était lui, fils de Dieu. Malgré toute sa foi et son amour, elle n'avait jamais pu étreindre tout le mystère de son enfant. Cette brisure en elle, cette solitude, s'achève dans l'affreuse tragédie d'une mort d'esclave. Toute la foi douloureuse et perdue de Marie est là, dans la fidélité d'un amour fort comme la mort. Leurs regards se sont croisés, et dans l'immense et infinie solitude d'une tâche rédemptrice où pas un des apôtres n'avait pu le suivre ou même le comprendre, voici donc la présence de sa bien-aimée mère. Et plus proche de lui, présente de toute sa tendresse de mère, elle devra aussi rester en arrière. Jésus-Christ a dit « Là où je vais, vous ne pouvez me suivre. » Dernier brisement et suprême douleur dans le cœur du Fils qui devint maintenant par sa passion la propriété de tout homme pécheur, de tout et même du premier venu, donc je répète, il était donc venu pour mourir pour nous. Et donc, c'était le dernier brisement. Et c'était la suprême douleur dans le cœur du Fils, qui devient maintenant, on l'a bien compris, par sa passion, la propriété de tout homme, de tout un chacun, tous les pécheurs et de tous, et voyez-vous, même du premier venu, de n'importe qui. Il nous faut donc comprendre que dans l'exacte mesure où notre vie participera à la mission du Sauveur, dans cette même mesure, elle sera solitude, déchirement et abandon au regard de toute affection particulière, familiale ou autre, parce que nous deviendrons avec lui l'homme de tous, oui, celui qui ne peut plus rien revendiquer pour soi-même. Notre cœur de fils, de frère, de sœur, d'ami sera avant tout et désormais un cœur de consacré. Chers amis, nous arrivons maintenant à Simon le Cyrénéen qui aide Jésus-Christ à porter sa croix. Oui, Simon et de toute la foule, sans doute le plus obscur et le plus méprisé. On ne l'eût pas remarqué pour autre chose, mais puisqu'il s'agit d'un rude travail de porteur et de l'abjection d'être associé au sort d'un condamné à mort, Simon était juste ce qu'il fallait, donc l'homme de la circonstance, un ouvrier, un humble et un pauvre. Il ne fallait donc pas autre chose. Vous doutiez-vous, Simon de Cyrène, de la grandeur et du prix de votre travail? Et votre cœur a-t-il vivifié le rude effort du corps déjà lassé par le poids du jour? Il nous est si dur et si difficile de comprendre que c'est justement cette portion-là, plus méprisée et la moins reluisante de notre vie, qui est la plus capable d'être associée au travail du Rédempteur du monde. Et c'est que nous aurions tendance à rejeter de notre vie ce qui l'a fait pauvre, abject, et cependant, cela même nous rend aptes à être réquisitionnés par l'amour, et ceci à la suite de notre Sauveur bien-aimé. On ne réquisitionne pas un riche, un bien habillé, celui qui est devant sa porte, mais on réquisitionne le pauvre, le passant, celui qu'on méprise, qui sait en donner un coup sans rien dire. Puissions-nous, chers amis, rester humbles et, s'il plaît à Dieu, mépriser au point d'être bon pour le service du Sauveur. Jésus est maintenant attaché à la croix. Voici enfin le moment suprême. Jésus-Christ est attaché, rivé par le fer, les mains et les pieds teints du sang qui coule le long de ses membres et du bois, et lentement, l'agonie approche dans une souffrance au paroxysme. N'est-ce pas le baptême qu'il a désiré d'un si grand désir? Il était à la fois tellement désireux et tellement épouvanté de l'approche de cette heure. Et la voilà toute présente, cette fameuse heure, dans le sang, la nudité et la souffrance atroce. Mais que se passe-t-il à son être, ô Jésus-Christ? Sinon, cet enfantement mystérieux de toutes les âmes du monde à la véritable vie. Le voici élevé et tout est attiré vers lui. Jean et sa mère aussi, ils sont là. Il faut nous laisser tirer vers cette croix. C'est là qu'est pour nous la vie suprême, la seule et vraie vie. Laissons-nous sauver par ce sang, Laissons-nous aimer de cette manière, sans ce mouvement de retrait inconsciemment provoqué par le sentiment qu'il nous faudra à notre tour rendre amour pour amour et peut-être même de la même manière. La Bible nous dit « Le Fils de l'homme est venu servir et donner sa vie en rançon d'une multitude. » Saint Marc, chapitre 10, verset 45. Premièrement, ton amour pour Jésus-Christ n'est qu'un mot ou un sentiment superficiel s'il ne te conduit pas jusqu'à partager sa croix avec lui. Jésus-Christ a parlé de ta croix, cela était compris dans l'appel qu'il t'a adressé. Et c'est pourquoi il faut beaucoup de courage pour suivre Jésus-Christ qui te demande d'accepter librement de souffrir avec lui. L'appel que Jésus-Christ t'a adressé renferme donc une demande bien précise à partager sa propre souffrance, d'abord par pur amour, simplement parce que tu l'aimes, et ensuite en vue de travailler avec lui à sauver des âmes. La passion de Jésus-Christ a comme récapitulé toutes les formes de souffrance humaine. On peut dire abjection, humiliation, douleur physique extrême, agonie, tristesse, souffrance morale de tout genre. Et ta vocation exige que tu prennes librement ta part de la passion de Christ. À la profession perpétuelle, l'Église consacrera cette offrande de ta vie à Jésus crucifié en vue du salut de tes frères et sœurs. Les sollicitations de la vie, la pente naturelle de ton égoïsme, tout contribuera à te faire oublier la dure et vivante réalité du rachat de l'homme par la souffrance. Remets-toi souvent en face de cette loi de ta vie, spécialement en participant au saint sacrifice. La souffrance de Christ, ce qu'elle a été pour lui et également pour toi, et ce que maintenant Jésus-Christ attend de toi à ce sujet. Deuxièmement, souviens-toi qu'il y a quelque part dans le monde des hommes et des femmes dont le salut, la sainteté dépendent de la part que tu prendras à la passion du Sauveur. Ainsi l'a voulu Jésus-Christ lui-même. Pense un peu à ces hommes, ces femmes que tu connaîtras un jour. Pense à ces liens invisibles noués entre eux et toi qui font que tu n'es jamais seul lorsque tu cèdes à la lâcheté, à l'égoïsme ou que tu refuses une croix. Que la conscience de cette responsabilité te donne la joie et le courage. N'oublie jamais ton troupeau qui a été confié par ton Sauveur. Applique-toi à ce travail de rédemption, particulièrement durant les jours saints. Ne crains pas de préciser ce que tu offriras alors à Jésus-Christ en souvenir de sa passion. Plus tu marcheras généreusement dans ce chemin de l'humble sacrifice volontaire, plus tu aimeras ta vie consacrée au Seigneur. Autrement, l'ennui risque de se glisser dans la monotonie des jours qui se ressemblent. Observe en cet esprit d'offrande au crucifié, les quelques restrictions qu'exige de toi l'observation de ta règle, comme par exemple la modération dans certaines choses de la vie courante. L'habitude du sacrifice volontaire fortifie ta volonté et la rend capable d'agir à l'encontre de tes goûts pour le plus grand bien de la prière et de la charité envers les autres. Tout ce qui dans ta vie est une conséquence de ta vocation doit être spécialement supporté avec courage et avec grandeur d'âme. La fatigue ou l'ennui dû au travail, la maladie, une infirmité, les duretés du climat, la nourriture, la souffrance de mal comprendre et parler une langue, tout cela est ton lot, ta croix, et supporter ces inconvénients fait partie de la tâche quotidienne. Troisièmement, médite fréquemment sur les sentiments d'amour et les dispositions d'infinie générosité dont débordait le cœur de Jésus-Christ, ainsi que sur les angoisses, les souffrances, les tristesses qui l'ont assailli durant sa vie terrestre. Et tu réaliseras bien mal cette mission de sauveur avec lui, sans une connaissance intime du cœur du Christ et un grand amour pour lui. Oui, chers amis, ensuite, souvenez-vous de Saint Marc, chapitre 14, verset 24. Là, il est dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui a été versé en faveur d'une multitude. » C'est écrit dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Saint Marc, chapitre 14, verset 24. Et je me demande si les illusions dont notre vie spirituelle nous entoure si souvent sont formalisme, oui, et sont un manque de vérité. On pourrait croire que c'est simplement une sorte de formalisme et peut-être même un manque de vérité et qu'ils n'ont pas pour parallèle ce manque d'intérêt pour la réalité concrète humaine, terrestre, de la rédemption et du prix dont elle a été achetée par le sang de Jésus-Christ. Et cet amour, chers amis, cet amour passionné pour le sang de Jésus-Christ a, voyez-vous, quelque chose de déconcertant au premier abord. Et ceci pour les esprits quelque peu désabusés et trop rationnels de notre temps. Nous sommes, je pense, et je le crois de tout mon cœur, racheté, il est évident, et nous pouvons le croire, ceci est inclus dans notre foi de chrétien, mais nous n'avons jamais bien réalisé le caractère concret de notre rachat et de notre nouvelle naissance et création par le sang de Jésus-Christ. À de rares moments, quelques lumières du Seigneur ou le vertige de la tentation nous permettent, comme dans un éclair, de prendre conscience de l'abîme qui nous sépare de la grandeur de Dieu en même temps que nous apparaît la totale faiblesse de notre nature en face du péché. Mais, à part ces courts instants, nous n'avons guère conscience de ce que signifie la réalité du péché, la réalité également du salut, et donc de la purification dans le sang de Jésus-Christ. De méditer sur la brutale réalité des événements qui nous ont valu d'être recréés, oui, recréés, nés de nouveau, enfants de Dieu, et nous permettra sans doute d'être davantage et plus généreusement réalistes dans notre vie spirituelle de chaque jour. Et c'est là, sur la banquette de pierre, maintenant recouverte d'un autel, dans l'étroite cellule du sépulcre où deux personnes peuvent à peine se tenir ensemble, c'est là que le cadavre exsangue de Jésus-Christ a reposé durant le premier samedi saint. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de sang répandu. Oui, tout le sang contenu dans ce corps s'était écoulé à travers les déchirures dont il avait été lacéré, à travers les blessures des mains, des pieds, de la tête et du côté, et avait ruisselé le long du bois pour être absorbé par la terre aride du calvaire à 20 mètres de là. Il y en avait eu aussi du sang sur les dalles du prétoire, sur la colonne de la flagellation, les fouets des soldats, le manteau de pourpre. Il y en avait sur les pierres des rues de la ville et dans la poussière du chemin. Christ en avait laissé partout de son sang sur cette terre de Palestine, sa patrie, et dans cette ville de Jérusalem qu'il avait pourtant tellement aimée. Tout cela, voyez-vous, n'était pas arrivé par hasard et n'était pas qu'un simple symbole, comme certains voudraient le croire, mais ce fut une terrible et humaine réalité. Et maintenant, les cicatrices des blessures des mains, des pieds et du côté sont imprimées pour toujours sur un corps définitivement uni à la divinité en la personne du Verbe. Des cicatrices sont les témoins éternels. Oui, ces cicatrices, croyez-moi, il n'y a rien de tel comme témoin éternel de ce sang qui a été répandu un jour de l'histoire de l'humanité et sur un coin de notre terre. Et tout cela n'a pas été l'effet du hasard, pas du tout. Christ devait mourir ainsi, parce que depuis toujours, depuis le début de l'humanité, Dieu avait eu cette idée précise, oui, cette idée précise et nette comme les plans d'avenir qu'un père ou une mère porte en son cœur en pensant à son fils qui grandit. Et Jésus-Christ devait donc donner à son père et à ses frères, les hommes, la preuve de son amour et de son obéissance en versant douloureusement tout son sang. S'il était possible à Jésus-Christ de nous réconcilier tous totalement avec son père, de nous mériter non seulement le pardon, mais d'adoption, l'adoption divine par la seule offrande de son merveilleux amour, par un simple mouvement de son cœur, Dieu en fait avait prévu et décidé qu'il en serait autrement. Et c'est donc du sang qui devait devenir le prix de notre rachat, mes chers amis. Le plan conçu par Dieu est tellement arrêté qu'il se manifeste continuellement à travers l'histoire, chaque fois que d'une manière ou d'une autre, Dieu nous révèle sa pensée par des paroles ou des prophéties, aussi bien qu'à travers l'institution des rites du temple ou les événements symboliques de l'histoire d'Israël. Le sang pour les hommes représente la condition de leur vie terrestre. La répandre, c'est donc enlever la vie et c'est de mourir. Donner son sang, c'est pour un homme, une femme, donner le plus qu'il peut donner ici-bas, car c'est la condition même de sa vie. Le sang est vraiment un signe de la vie, non pas d'une vie spirituelle simplement, d'une vie angélique, mais de la vie animale, dans l'unité de la nature humaine. S'il est vrai que l'esprit est plus que la chair, et s'il est vrai que l'esprit vivifie et que la chair ne sert de rien, il est donc vrai aussi que le Fils de Dieu est homme pour toujours et pour son Père lui a demandé, oui, son Père lui a demandé cela pour accomplir sa mission de sauveur et de verser ainsi son sang pour nous racheter. Si nous avons été sauvés par l'obéissance de Christ, nous n'avons pas été sauvés par n'importe quelle sorte d'obéissance, mais par celle qui lui a fait répandre goutte à goutte son sang de Gethsémané au calvaire. Et lorsqu'il s'agit de l'un d'entre nous, le sang répandu est signe du don de la vie. La valeur de ce don dépend de la grandeur de l'amour qu'il exprime et de l'idéal qu'il proclame. Mais en lui-même, ce sang n'est qu'un sang humain répandu qui va rejoindre le flot de tant et tant de blessures humaines aux significations multiples. Il n'en va pas de même, chers amis, pour le sang de Christ. Son effusion est certes le signe de l'amour d'un cœur, un cœur qui a aimé jusqu'à la mort de la croix. Oui, le signe de la peine affreuse et du douloureux travail humain auquel Jésus-Christ s'est livré pour chacun de nous. Mais ce sang a en lui-même une valeur unique que n'aurait jamais aucun sang répandu, qui le rend infiniment précieux et adorable. C'est un sang divin. C'est celui du Verbe incarné, donc le Fils de Dieu. Et nous comprenons comment un tel sang a pu devenir au sens propre du terme le prix auquel chacun de nous a été racheté. Christ est descendu jusqu'à nous par un chemin de sueur et de sang pour nous démontrer le terrible sérieux de son amour et de sa volonté de nous racheter. Mais cette descente de l'amour dans le déchirement de la chair n'avait-elle pas aussi pour but de nous convaincre que ce travail de purification, de nouvelle création qui nous atteignait dans les plus obscures profondeurs de notre nature humaine, exactement là où s'enracinent nos péchés, nos refus, nos faiblesses et nos maladies du corps et de l'âme. Lorsque cela va mal, lorsque nous sommes comme physiquement appesantis par le péché, par la tentation ou simplement par le poids de nos impuissances, nous avons besoin de nous rappeler que le sang de notre bien-aimé Sauveur et médecin est là, à notre portée. C'est tellement la volonté de Christ que ce sang demeure à notre portée, qu'il a voulu le faire demeurer parmi nous d'une manière permanente sous les espèces du vin et du pain dans le mystère du sacrifice de la Sainte Cène. Oui, le sang répandu ainsi par Jésus-Christ nous parle silencieusement et nous dira encore bien d'autres choses. Ce sang, en effet, nous concerne chacun personnellement. Si Jésus s'est imposé un tel travail et a payé un tel prix pour me transformer et pour me sauver, comme pourrais-je oublier que je suis obligé à suivre un chemin semblable pour aller vers lui et pour que cette nouvelle naissance puisse vraiment s'opérer en moi. C'est également dans la douleur, dans la peine, en suant sang et eau, que nous devons aller à la rencontre de notre rédemption afin de collaborer activement à l'œuvre de notre après-salut. Nous avons connu la nouvelle naissance, le salut, par la foi en Jésus-Christ. Mais tout ne s'arrête pas là. Non, nous devons grandir dans la foi en Christ. Nous recevons chaque matin la grâce divine à travers le sacrement du sang versé de Jésus et de son corps transpercé. Comment Dieu aurait-il choisi de nous communiquer sa vie sous ces signes de mort sanglante s'il n'était pas dans son intention d'attendre de nous, dans une bien faible mesure cependant, un peu de générosité et de courage pour aller à sa rencontre sur le même chemin que lui. Il faut donc en convenir, nous reculons bien souvent devant l'effort et le sacrifice et nous promettons de suivre Christ sans trop savoir ce à quoi une telle promesse nous engage. Il en est bien souvent de nos demandes, comme de celles que les apôtres Jacques et Jean adressaient à Christ. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, leur répond le maître. Car pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Pouvez-vous ? » Et Jésus parlait de l'effusion de son sang. Jésus leur dit, « La coupe que je dois boire, vous la boirez tôt ou tard. » Apocalypse 7, versets 13 à 14, ainsi que Apocalypse chapitre 12, verset 11. Plus nous aurons le désir que notre amour pour Dieu et pour Jésus-Christ et pour nos frères et sœurs soit réaliste et fort, plus nous devrons être attachés à la réalité du sang précieux du Christ. Ce sang, nous devons le recevoir en nous et vouloir qu'il nous guérisse à cause du sang de Jésus-Christ. Aucune faiblesse ne peut nous décourager, car ce sang est, au sens propre du terme, notre guérison et notre force. Il faut aviver notre foi au sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et chaque fois que nous demandons pardon à Dieu pour nos misères. Pour terminer, j'aimerais dire que c'est aux dimensions du monde qu'il nous faut aussi étendre nos préoccupations, car le sang de Jésus-Christ appartient à tous les hommes et femmes et c'est lui qui nous unit les uns aux autres. À chacun de nous, Jésus-Christ a confié la responsabilité d'en faire fructifier quelques gouttes pour le salut et la rédemption de nos frères et sœurs. Chers amis, avant de prier ensemble, j'aimerais vous donner, si possible, quelques paroles de consolation. Quand tu ne peux pas sortir de ton découragement, de ta mélancolie, fais retenir à haute voix cette seule parole. Oui, Père, je veux porter ma croix. Christ a porté et porte ma croix. Mais mon devoir, c'est de faire face à la vie actuelle telle qu'elle est, et le Seigneur me donne le courage. Cette parole rendra ton fardeau plus léger. Un sacrifice de ta volonté à l'action de Dieu, elle a donc le pouvoir de transformer ton cœur, et par là, la détresse perdra pour toi son amertume. Dieu se nomme ton Père. Aussi attend-il de toi un amour filial. Le Père cherche des yeux ton amour, car l'amour de ses enfants est sa grande joie. Mais sache que tu ne seras cette joie pour lui, que si tu l'aimes par-dessus tout. Ensuite, tu lui feras don de ce à quoi tu es attaché, qu'il s'agisse des hommes ou des choses, tu le lui offriras par amour, jusqu'à ce qui t'est le plus cher. Et oui, ainsi, tu réjouiras le cœur de Dieu et la joie de Dieu te rendra riche et heureux. Prions ensemble. Seigneur, nous montons à Jérusalem à ta suite. Avec toi, nous voulons monter, bien que craintifs et parfois effrayés. Nous avons besoin de te suivre dans la mort, puisque tu donnes rendez-vous au calvaire à toute créature. Si tu es mort, c'est qu'il nous faut mourir. Si pour porter du fruit, tu es tombé en terre, c'est qu'il nous faut être enterré dans le sillon. Et si nous devons souvent avancer à notre tour sans comprendre, c'est que nous avons besoin de l'amour mystérieuse qui explique tout et qui vivifie tout. Attache-nous seulement à Jésus-Christ pour que nous passions par le même chemin, par Gethsémané, par Golgotha. tiens-nous quand nous ne comprenons plus, et apprends-nous que notre plus fortifiante nourriture est de souffrir de la part des autres afin de mieux comprendre que tu as été crucifié pour nous. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais, car Dieu vous aime. Il vous aime vraiment, tellement que vous l'avez bien compris, qu'il a versé son sang pour vous. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et j'espère que vous continuerez de vouloir les écouter, et ceci pour grandir spirituellement et surtout pour bientôt pouvoir être celui et celle qui va être en bénédiction à beaucoup d'autres. Gloire à Dieu. À bientôt à nouveau, mes très chers amis.